sur YouTube. Alors, ce matin, je débute, hein, vous avez vu, on a deux versets ce matin. Donc, on ne fait pas une grosse exposé des versets, mais clairement, on va voir d'autres versets ailleurs. On va parler de la parole de Dieu. Mais je veux faire une introduction sur ce livre-là, sur la ville de Corinthe, les gens, pour qu'on puisse comprendre un peu plus la lettre. Quand on comprend la culture, le contexte, bien, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui a été écrit, pourquoi. Quand on fait juste lire puis on n'a pas l'information, bien, des fois, il y a des choses qu'on peut se demander, pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi il dit ça. Et le titre du message, « Les chrétiens ne sont pas du monde ». Et vous savez, on peut le voir positif ou négatif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, on parlait d'un petit gars tannant, il dit, ouais, il est donc même pas du monde, cet enfant-là. Hein, vous avez sûrement déjà entendu ça. Ben, on pourrait le dire comme ça, les chrétiens ne sont pas du monde. Vous savez, on entend ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chrétiens, mais on entend souvent ça quand on voit un chrétien qui a un mauvais comportement ou un témoignage qui ne glorifie plus le Seigneur. Il y a 2 ans, j'étais dans un tournoi de golf comme exposant, parce que j'aide un de mes amis quand il fait ses expositions, puis quand les gens viennent, on parle, puis à un moment donné, j'explique que je suis chrétien, puis je travaille dans une église. Et là, il me dit, « T'es-tu avec la gang à Mukendi? » Je ne sais pas si vous vous rappelez ce pasteur-là de Mukendi, il y a quelques années, condamné pour agression sexuelle, il a pris la fuite. Donc, la première image qu'il a eue quand il a entendu que j'étais chrétien évangélique, c'est cette image-là. Puis pour lui, les chrétiens, c'est pas du monde, ça. Ça n'a même pas d'allure. Puis il a raison. Je veux dire, il a raison parce que, bon, ce pasteur-là, Mukendi, est-ce qu'on peut vraiment le considérer un chrétien évangélique selon les Écritures? Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais clairement, il y a eu un comportement qui a déshonoré le nom du Seigneur. Parce que en tant que chrétien, on devrait avoir un témoignage qui reflète la parole de Dieu, qui reflète Christ. Mais on comprend que ce n'est pas toujours le cas. Il y a toutes sortes de situations des chrétiens où est-ce qu'on s'égare, il y en a qui tombent. Et on est les premiers à dire, oui, on est sauvés, mais on n'est pas parfait. On est encore pécheurs, on le sait. Hein, tous les jours, on va pécher ou on va... On est encore pécheurs, mais on s'en va vers la ressemblance à Christ. On veut ressembler à Christ. Donc, à chaque jour, c'est un combat pour nous. Puis, en espérant qu'il y ait de l'amélioration, qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Donc, des fois, oui, les chrétiens ne sont pas du monde, négativement, parce que oui, on peut l'échapper. Mais je veux revirer ça positivement. Les chrétiens ne sont pas du monde, dans le sens qu'on n'est pas des gens de ce monde. On a expérimenté la nouvelle naissance. On est devenus des enfants de Dieu. Alors, nous ne sommes plus de ce monde. Alors, c'est vrai de dire, les chrétiens ne sont pas du monde. Notre monde est en haut. Et on ne devrait plus agir comme les gens dans ce monde. Puis, avant de regarder dans Corinthiens, tournez dans Éphésiens. On va lire ensemble, parce que je vais juste garder ça pour quelques images. Et la lecture, on va la faire ensemble. J'aime la mettre à l'écran pour que les gens suivent, mais je préfère que les gens aient leur Bible et suivent dans leur Bible. Éphésiens 2, on va lire les 6 premiers versets. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Hein? » Mort dans le sens de séparés, on était séparés de Dieu. « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, clairement, nous ne sommes plus du monde. Et bien sûr, on va encore tomber, vivre selon nos pulsions, des fois, notre chair, on va céder, mais nous sommes spirituellement des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus du monde, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est notre position devant Dieu, il nous voit parfaits en Jésus-Christ. Si on regarde maintenant aux chrétiens de Corinthe, quelle image pensez-vous que les non-croyants avaient des Corinthiens? Bien, si on lit dans le livre d'un Corinthien, il est question de débauche, il est question d'inceste, c'est quand même intense, hein? Dans l'Église, qui scandalisait même les non-croyants. Donc, dans l'Église, il se passait des choses qui étaient même scandaleuses aux yeux de ceux qui appartenaient pas au Seigneur. Pour vous montrer à quel point c'était quand même profond. Alors, sûrement qu'il y avait une perception que, voyons, on n'en met pas du monde, ce gang-là. Ils n'en met pas d'allure. Et c'est une des raisons que Paul a écrit un Corinthien pour adresser certains problèmes. Et puis, on sait que cette première lettre n'a pas été bien reçue de tous. Puis après cette lettre-là, Paul a fait une visite aux Corinthiens qui va décrire, quand on lit 2 Corinthiens 2.1 dans la lettre qu'on va regarder, notre deuxième épître, on voit qu'il décrit cette visite-là comme triste. Ensuite, Paul a écrit une autre lettre, on pourrait l'appeler une deuxième, qui était une lettre douloureuse, mais qui est perdue. On ne l'a pas, c'est pas une des lettres qui est dans notre Bible. Ensuite, il écrit une troisième lettre. Et c'est notre lettre 2 Corinthiens. Donc, entre 1 et 2, il s'est passé quelque chose. Puis, possiblement qu'il y en a une quatrième. On va s'en tenir là qu'il y a une, deux qui est perdue, puis la trois qui est notre 2. On se comprend. Donc, on va lire les deux premiers versets parce que je ne veux pas entrer trop dans le détail. Juste les deux premiers versets, puis regarder un peu à ce contexte, cette ville-là, les gens qui étaient là. Donc, 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, clairement, on voit que Timothée il est avec Paul quand il écrit cette lettre-là. Et c'est intéressant parce que c'est pas une lettre seulement à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, mais aussi à tous les saints de l'Achaïe. Donc, probablement une lettre peut-être circulaire que quand les gens la recevaient, ils l'envoyaient à d'autres églises pour partager justement cet enseignement puis ces exhortations-là de l'apôtre Paul. Raison d'écrire 2 Corinthiens, il y en a plusieurs. Et on va voir durant toute l'année, quand on va venir, chacun notre tour, on va les voir. Mais premièrement, on voit qu'il veut exprimer sa joie de voir leur repentance suite à sa dernière lettre, celle qui est perdue, qui était dure. Ben, il exprime sa joie parce qu'il voit une forme de repentance chez les croyants. Ensuite, il veut leur partager les troubles qu'il a expérimentés en Asie. On voit ça au chapitre 1, les versets 8 à 11. Il veut leur expliquer pourquoi il a changé son plan de voyage. Ensuite, il veut leur présenter Dieu comme un père qui est un consolateur, parce qu'il veut venir nous consoler, qui peut, justement, dans n'importe quelle affliction, venir prendre soin de nous. Il leur parle aussi de l'œuvre de Jésus-Christ, de la divinité du Saint-Esprit. Il veut aussi défendre son ministère. Puis on va voir ça dans les chapitres 10 à 13, parce qu'il y a des faux docteurs, des gens qui vont s'opposer à lui, certains faux apôtres qui ont essayé de dénigrer Paul. Le grand apôtre Paul, nous, on regarde avec tout ce qu'on a de lui, on n'a pas le goût de le dénigrer, on lit ses lettres, mais à l'époque, Paul? C'est qui ce gars-là? Puis il écrit. Donc, il y a des gens qui le dénigraient, qui s'opposaient à lui. Donc, c'est ce que Paul il veut faire, il veut défendre son ministère. Parce qu'eux, en plus de le dénigrer, ils apportaient des fausses doctrines. Et Paul veut aussi s'attaquer à ces fausses doctrines, ces faux apôtres-là, Puis il veut aussi rétablir sa relation avec les chrétiens à Corinthe, qui ont manqué de loyauté envers lui, qui ne l'ont pas défendu, parce que des gens, quand ils entendaient ces faux docteurs-là, au lieu de défendre Paul, ils ont pris le bord, puis ils n'ont pas été loyaux envers Paul. Donc, à quelque part, Paul recherche la réconciliation aussi avec les gens à qui il écrit à Corinthe. C'est pour ça, dans le chapitre 7, 2, qu'on va voir plus tard, il dit « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. » Donc, vous voyez, comme une forme de défense, mais « Donnez-nous une place. » Il veut rétablir cette relation-là avec les croyants à Corinthe. C'est important pour Paul de rétablir sa relation avec les chrétiens. On est quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Des nouvelles créatures. On est nouveaux. Des hommes, des femmes nouveaux. On ne peut pas tolérer de froid entre nous. C'est un des versets que j'ai bien aimé au début de ma vie chrétienne. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et je pense que ces versets-là, 2 Corinthiens 5, 17, 18, sont extrêmement importants pour la lettre dans son ensemble. Réconciliation. Nous sommes de nouvelles créatures, les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas comme le monde. Alors, on va regarder deux choses. Dans le monde, premier point, ça va être dans le monde. Puis deuxième point, ça va être, mais pas comme le monde. OK? On va être assez simple à suivre. Alors, premier point, dans le monde, j'aimerais qu'on regarde justement le contexte culturel de l'époque, la ville de Corinthe. Originalement, cette ville-là, elle a été détruite en 146 avant Jésus-Christ par les Romains. Et la ville a resté pendant 100 ans dans son état de déserte. Et c'est Jules César, un peu avant sa mort, en 44 avant Jésus-Christ. Donc, 100 ans avant que Paul passe par cette ville-là, Jules César a ordonné que Corinthe soit reconstruite, mais avec l'architecture à l'allure romaine, puis il voulait qu'elle soit gouvernée par les Romains. La ville est devenue riche, pourquoi? À cause de ses activités commerciales, à cause des deux ports qui étaient, on pourra regarder sur l'image, s'il te plaît, Mario, deux ports qui étaient ouverts sur deux mers. Juste peser sur ta flèche, ouais. Donc, vous voyez Corinthe, qui est là avec le point noir. Donc, il y avait un port, vous voyez comme il y a deux baies, il y a le golfe de Corinthe, puis à l'autre bord, il y a comme une autre baie. Donc, il y avait un port à droite, puis il y avait un port à gauche. Donc, c'était l'endroit parfait pour ceux qui expédiaient des marchandises. En passant par, on l'appelle ça l'isthme, mais tu peux passer la prochaine photo. Je vais le mettre un petit peu plus grand. On appelle ça l'isthme de Corinthe. L'isthme de Corinthe vu en avion. Donc, en passant par là, bien, non seulement on gagnait du temps, mais on évitait les dangers de naviguer autour de la Grèce. Plutôt que de faire tout le tour, bien, on passait là, puis on avait juste 6 kilomètres à traverser, puis on arrivait sur l'autre bateau, puis on pouvait continuer par là. Donc, deux ports. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça fait du trafic. Ça l'amène des gens. En 67, Néron, il a été le premier à faire une tentative pour faire un canal. Tu peux mettre la prochaine image? Vous voyez ce canal-là? Il était le premier, hein, 67, il était visionnaire. Donc, il a inauguré les travaux avec une pelle en or. Mais son successeur, qui était Galba, il a abandonné ça parce que ça coûtait trop cher. Et on a repris les travaux beaucoup d'années plus tard parce que ça a été inauguré en 1893, ce tunnel-là, finalement. Donc, presque 2000 ans plus tard, qu'on peut dire que Néron, il avait la vision, mais il n'y a personne qui a eu la vision avec lui après, jusqu'à 2000 ans plus tard. Donc, le fait d'avoir deux ports comme ça, maritimes, ça a attiré beaucoup de monde à Corinthe. C'est devenu rapidement le premier centre commercial de la Grèce, une attraction touristique qui était majeure. Il y avait des événements sportifs, il y avait des concours, les gladiateurs. Tu sais, on voit les films, là, ben, l'histoire, oui, nous dit qu'il y avait tout ça. Il y avait des concours, il y avait des productions théâtrales, des pièces de théâtre. Il y a tellement de choses intéressantes, même dans les écrits de l'époque, qu'on voit que Paul y avait une influence dans le sens qu'il connaissait ces écrits-là. Les écrivains, tu sais, nous, on lit ça, mais les écrivains étaient dans un contexte, il se passait des choses, il y avait des écrits, il y avait des spectacles, il y avait des Jeux olympiques, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Donc, mais nous, on le réalise pas quand on fait juste lire, mais quand on réalise tout ça, ben on comprend des fois pourquoi ils écrivent certaines choses, puis pourquoi on a notre Bible qu'on l'a. Donc, c'était aussi un centre de pèlerinage religieux. On dit que c'est la deuxième métropole la plus célèbre dans l'Empire après Rome. Bien sûr, Rome, c'est Rome, mais Corinthe était la deuxième métropole la plus célèbre. Puis, un des textes que je me souviens pas quel auteur, mais je vous le lis, « Corinthe ressemblait à une fourmilière grouillante, à une ruche bourdonnante de commerçants venus de tous les coins de la terre, désireux de faire fortune. Le transit de marchandises par ses ports est à l'origine de sa puissance économique. » Donc, à cause de ces deux ports-là, c'est comme ça qu'elle est devenue puissante au niveau économique. Vous savez, plus il y a de monde, plus il y a de la diversité, plus il y a de l'offre. Et c'est là aussi, c'est le cas aussi pour la religion, plus qu'il y a de l'offre dans la religion. Et les archéologues, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découvert des preuves une trentaine, ils disent, de divinités qui étaient là. Des divinités différentes parmi les ruines de la ville. Il y avait des temples, il y avait des sanctuaires dédiés à Neptune, Apollon, Aphrodite, Vénus et d'autres. Donc, quand on parle de pluralisme aujourd'hui, hein, l'idée que chacun a son mode de pensée, chacun a ses opinions, chacun a sa vérité, puis tout est bon, ben Paul était en plein dedans déjà au premier siècle. C'est-à-dire une trentaine de sortes de dieux, de religions de toutes sortes. On a trouvé plus d'une douzaine de temples à Corinthe et aux alentours de Corinthe. Le temple d'Aphrodite, qui était la déesse de l'amour. Ce temple-là employait 1000 prostituées religieuses. Pour le mettre, je l'ai mis à Épidaure. Ça, c'est l'autre après, ça, je l'ai déjà lu. À Épidaure, ça, c'est à Épidaure, ce qui est une ville au sud de Corinthe. Il y avait le sanctuaire d'Asclépios. Donc, c'est ce qui en reste. Tu pourras le fermer après, parce qu'on va... Donc, Asclépios était le dieu de la médecine. Ça va, on avait des dieux pour tout, hein? Aujourd'hui, on n'a pas un dieu de la médecine, on a des docteurs. On a l'hôpital, mais dans le temps, il y avait le dieu de la médecine. Asclépios, quand on parle de médecine, c'est la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale. Et regardez comment ça ressemble quand même à nous aujourd'hui. Parce que c'est un endroit populaire. On allait là, dans ce temple-là. Ah, ça ne fait pas partie de ma présentation. On allait là, savez-vous pourquoi? Pour prendre un repas avec des amis, dans un endroit zen, tranquille, dans une atmosphère détendue. Il y avait des bains, des lieux de repos, des jardins. Ça vous fait pas penser à nos spas? Hein, on va au spa le samedi, là, un bon petit repas santé entre amis, la petite musique zen là, qui joue. Puis il y a les hamacs, puis il y a les piscines. Puis moi, je suis pas contre ça. J'aime bien ça une fois de temps en temps, aller là. Mais c'était vraiment ces lieux-là de détente. Il y avait le culte du corps, le culte de la beauté, le culte de la santé, du sexe. Et tous ces cultes-là étaient très influents dans la formation de la pensée corinthienne. Parce que, je veux dire, on est parmi ça, tous ces cultes-là, puis toutes ces déesses, ces dieux-là, ces temples-là, puis on est tous là à Corinthe. Donc, comment un Corinthien pensait? Bien, le pluralisme, comme on le connaît aujourd'hui, chacun fait ce qui lui semble bon, puis chacun adhère à ses choses, bien, c'était exactement ça qui se passait. Et vous savez, on a les mêmes dieux aujourd'hui, ils ont juste changé d'emballage. C'est-à-dire, tu sais, les gens vont pas adorer une statue, puis un temple, puis tout, mais les gens vont au gym. Puis je suis pas contre le gym. Mais il y en a beaucoup qui sont un dieu. Le temple, le culte du corps, puis de la santé physique, puis c'est devenu ça, la chose pour laquelle ils vivent. Donc, ça devient de l'idolâtrie. Donc, aujourd'hui, on a les mêmes dieux, mais avec un emballage différent. On n'a pas changé le cœur Moi, ça me fascine de voir comment le cœur humain, là, qu'on soit là, sur la ligne du temps, là, il est pareil partout. C'est juste la manière qu'on le fait qui va changer. Mais le cœur reste le même. Maintenant, si on parle, ça c'était la ville. Si on parle maintenant des personnes, mais voyez-vous comment ça met de la couleur un peu à la lettre de voir où est-ce qu'on est? Mais on est là, dans cette ville-là. Maintenant, les personnes, comment est-ce que les gens étaient? Plutarque, qui est un philosophe grec, il dit ceci, il dit, « En tant que résident d'une nouvelle ville qui subissait une reconstruction continuelle et qui gagnait en notoriété, les habitants de Corinthe avaient à la fois une fierté civique et une fierté individuelle croissante. » Donc, il y avait vraiment cette idée d'ego. On est vraiment quelqu'un. On dit qu'en général, les Corinthiens étaient fiers, vraiment orgueilleux, vantards même. Vantards. Pour eux, la reconnaissance publique était tellement, mais tellement importante. L'autopromotion était aussi importante. J'avais une autre photo, mais c'est pas grave, rallume pas. C'était une plaque. Parce que certaines personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils contribuaient. Ils donnaient de l'argent pour que des projets se construisent. Un temple, ou peu importe, un bain, une chose. Mais les gens voulaient démontrer aux autres que c'était eux. Donc, ils allaient ériger soit des statues ou ils faisaient des plaques en leur nom, en leur honneur à eux. C'est comme si moi, je finance un projet d'un bain, d'un spa, je sais pas. Et là, je vais dire, fais-moi une belle plaque. Martin Lebreu a financé ce projet. Puis là, on mettait ça quelque part, puis on l'inscrivait parce qu'il y avait cette fierté, cette vantardise, cet orgueil-là. Puis on en a trouvé plein de petites plaquettes inscrites partout à travers la ville. Donc, l'Évangile est arrivé dans cette ville-là de plaisir, de splendeur, que les hommes ont bâti fièrement. Une ville où on accordait beaucoup d'importance à l'affirmation de soi, la fierté, les gens, le pouvoir personnel, c'était quelque chose d'important. Les gens se tournaient vers les sectes. Pourquoi ils se tournaient vers les sectes? Pour la satisfaction personnelle. Pour la plupart, le message et la vie de Paul, tu vois Paul arriver avec son message, tu vois sa vie, c'était tout le contraire de ce qu'eux voulaient. Et il y a un petit nombre qui s'est converti. Je ne sais pas combien, mais assez pour faire des réunions ensemble, de se réunir. Et parmi ces croyants-là, ben, certains ont malheureusement apporté les traits culturels de Corinthe avec eux dans l'Église. Oui, ils se sont repentis. On peut être sauvé, mais voyez-vous que quand tu as beaucoup de bagages comme ça, ben, tu le traînes avec toi quelque part dans l'Église. C'est pour ça qu'on a la lettre de 1 Corinthiens qu'on trouve si scandaleuse, si on voit les problèmes qu'il y avait. Vous savez, on parle d'un peuple vieux de 2000 ans, mais on reconnaît notre monde moderne dans ce monde-là de l'époque de Paul. Et ce monde-là, comme notre monde aujourd'hui, ça fait juste démontrer un monde qui vit en rejetant Dieu, en mettant Dieu de côté. Donc, on n'est pas bien différent. La grande question qu'on a se poser, qui déteint sur qui? Parce qu'on vit dans le même genre de monde que Paul, que les chrétiens de Corinthe, mais qui déteint sur qui? Est-ce que c'est le monde qui déteint sur moi? Ou est-ce que c'est moi, par ma conduite, par mon témoignage, qui déteint sur le monde, qui est le sel qui donne le goût aux gens de connaître qu'est-ce que j'ai? C'est une bonne question à se poser. Donc, on a vu le monde, c'est ça mes deux points, hein, dans le monde. On est dans ce monde, on vit dans ce monde-là, mais pas comme le monde. On est appelé à être différent. On est enfant de Dieu. Vous savez, on est chrétien, on devrait tout le temps vivre avec l'impression qu'on a un caillou dans le soulier, pendant qu'on est ici bas. On devrait toujours sentir un inconfort dans notre vie, dans ce monde-là, parce que ce n'est pas notre monde. Si on se plaît, puis qu'on ne sent pas un petit caillou tout le temps dans notre soulier, ben peut-être parce que c'est le monde qui commence à déteindre trop sur nous. Moi, je me souviens des 5 à 7, quand j'étais au travail, et que j'ai jamais senti que j'étais à ma place dans ces 5 à 7-là. Ah, c'était pas la débauche, là. Je veux dire, c'était des 5 à 7, des soupers, les gens buvaient, puis ça jasait. Puis j'essaye de... Mais j'étais comme, je me sentais tellement pas avec ma gang. Je me sentais pas chez nous. À un moment donné, j'ai rencontré un chrétien. Je savais pas qu'il était chrétien. On a commencé à jaser. Puis on jasait, puis il me disait la même chose. Comment qu'il se sentait pas à sa place dans ces endroits-là. On devrait pas se sentir chez nous parce qu'on n'est pas chez nous. Alors, c'est pour ça l'inconfort du petit caillou. On devrait tout le temps avoir cette impression-là qu'on a un caillou dans le soulier, puis ça nous énerve. Hein, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a un caillou? On enlève nos souliers, on essaie de l'enlever. C'est étonnant. On devrait toujours sentir cet inconfort-là parce que la pensée de notre Père Céleste est complètement à la pensée du monde. Parce que le monde, qu'est-ce que le monde valorise? Là, je ne veux pas tout rentrer dans les détails et les débats de société, mais en gros, ça valorise la richesse, la puissance, la force, puis le succès rapide, facile. Mais c'est tout ça qu'on voyait à Corinthe. C'est ça que le monde valorise. Moi, j'ai jamais vu un concours de faiblesse. Hein? Il y a eu les Olympiques, là, il y avait tout ça, concours de faiblesse. C'est tout le temps la puissance, puis d'être la meilleure, puis la force. C'est ça qu'on valorise. Puis je dis pas que c'est pas correct là d'aller faire du sport puis de jouer pour gagner, puis c'est correct, mais on valorise ça. Mais la parole de Dieu valorise pas la force. 1 Corinthiens 1, regardez au verset 27-29, vous êtes dans le chapitre, dans la deuxième lettre, allez dans la première lettre, chapitre 1, verset 27 à 29. Dieu, donc, verset 27, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Et c'est une vérité qu'on oublie souvent. Quand je lis dans ma Bible et j'arrive à ce chapitre-là, ça me fait tout le temps du bien. Je ne sais pas si vous vous sentez fort là, en tant que chrétien, puis bon, puis que ça va bien, mais c'est pas nécessairement le sentiment que j'ai. T'sais. Il y a une lutte constante dans la vie chrétienne pour plaire au Seigneur. Et c'est une vérité, ça, qui nous fait du bien. Dieu choisit... il travaille avec les choses faibles de ce monde. Pas avec les fortes, les choses folles de ce monde, pas avec les intelligents. Et tout au long de la lettre, Paul nous rappelle cette vérité-là de plein de manières. On le voit dans la deuxième lettre, on voit que dans le chapitre 1, que le réconfort vient à travers l'affliction. On voit dans le chapitre 3 que la suffisance vient à travers notre insuffisance. Au chapitre 4, on voit que la vie vient à travers la mort. Au chapitre 6, on voit que la bénédiction vient à travers la souffrance. Au chapitre 8, on voit que la richesse vient à travers la pauvreté. Mais dans le chapitre 12 même, on voit que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc, c'est tout le contraire de ce que le monde valorise. Et Paul se glorifiait de ses faiblesses. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est pour ça qu'il a pu prêcher l'Évangile avec puissance et sans compromis, parce que ce n'était pas sur sa force à lui qu'il s'appuyait sur Christ. La prédication de Paul n'était pas comme celle du monde. Vous savez, à l'époque, Paul n'était pas le seul prédicateur. Hein? Et c'est intéressant de remarquer que les différentes sectes de l'époque, les cultes qui étaient donnés à d'autres dieux, attiraient leurs adeptes avec des expositions visibles de leur Dieu. C'est pour ça qu'on trouve des statues. Hein? Puis les statues, souvent, qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ça a tout le temps l'air des dieux musclés, puissants. Parce qu'on ne veut pas attirer des gens à notre religion ou secte en dépeignant quelqu'un qui est tout faible. C'est pas comme ça qu'on attire les gens. Plus un dieu avait l'air puissant, plus on voulait s'identifier à ce dieu-là puis recevoir sa force. Mais imaginez dépeindre Christ maintenant, un Dieu homme. Je regardais encore cette semaine, j'aime ça regarder les gens chrétiens qui interviewent dans la rue, puis il y a une dame, elle ne comprenait pas, voyons, Dieu, il est Dieu, il ne peut pas être homme, il ne peut pas s'abaisser à être un homme, mais c'est justement ça l'Évangile, il s'est abaissé. Il a revêtu un corps d'humanité. On dit aussi que ceux qui prêchaient avec force et fierté et qui étaient divertissants étaient honorés, ils étaient plus populaires. Mais Paul, on le sait que c'est avec faiblesse qu'il allait, avec la force de Christ. Puis une autre chose, c'est que les sectes et les religions de l'époque, ils ne semblaient pas exiger un changement dans le mode de vie de leurs convertis. Ceux qui adhéraient à une secte en particulier, bon, il y en avait plusieurs, tu choisis, qu'est-ce que tu as le goût d'avoir dans ta vie? Qu'est-ce que tu as le goût d'ajouter à ta vie? Donc, tu pouvais choisir. Bien, les gens, ils voulaient ajouter à leur vie. Ils voulaient la santé, ils voulaient la richesse, ils voulaient la protection. Ils ne voulaient pas une transformation morale. Ils ne voulaient pas délaisser un péché. Ils ne voulaient pas délaisser une façon de faire qui ne serait peut-être pas correcte selon... Non, on veut ajouter. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les sectes et les religions aujourd'hui, c'est comme un ajout. J'ajoute à ma vie quelque chose qui va me faire que je vais m'épanouir. Mais le christianisme, c'est un retrait. C'est pas un ajout, c'est un retrait. On est appelé à mourir à soi, à crucifier, à être crucifié avec Christ. Donc, c'est complètement, complètement le contraire de ce que Paul arrive à Corinthe pour présenter l'Évangile de Christ. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas eu une tonne de conversions, puis ça devait être pas facile pour lui. Il détonnait par rapport aux autres sectes de l'époque et tous les autres prédicateurs. Et il aurait pu faire comme les autres. Parce qu'il aurait pu arriver et dire, bon, c'est quoi qui marche? Puis en passant, il y a beaucoup d'églises, je ne veux pas en nommer, je ne veux pas parler contre l'Église de Jésus-Christ, parce que je crois qu'il y a de ces églises-là qui sont vraiment les églises de Christ, mais il y en a beaucoup d'églises qui cherchent quelle est la nouvelle manière d'atteindre plus de gens, la nouvelle mode. Autrement dit, on essaie d'habiller notre évangile avec du marketing. Ça, je le vois dans les églises, puis moi, je ne suis pas là pantoute. Puis quand quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, tu devrais, puis dans la manière de, je dis tout le temps, mon but, c'est, je suis pas là. Si tu veux ça, ben va dans ces églises-là, moi je suis pas là du tout. » Il aurait pu Paul dire « Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir plus de succès? » Comment les prédicateurs qui ont du succès, qu'est-ce qu'ils font? Je vais faire comme eux, je vais les imiter, tu sais. Il aurait pu habiller ça pour que ce soit un évangile bonbon, divertissant, attrayant, un évangile qui n'exige pas tout de nous. C'est ça que l'évangile exige, tout de nous. Tu veux suivre Christ? Prends ta croix. Quand prends ta croix, c'est faut que tu sois prêt à mourir. C'est pas mal tout, là. Mais Paul n'était pas comme le monde. Il était dans le monde, à Corinthe, les deux pieds dedans, avec les statues puis les temples, mais il n'était pas comme le monde. Et il a prêché la parole de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, sans honte, puis prêchait pour corriger l'erreur, puis je pense que dans la ville de Corinthe, il était rempli d'erreurs théologiques. Il n'adorait pas le Dieu de la Bible, puis Christ non plus. Donc, il s'en était rempli. Il n'a pas essayé d'ajouter du fla-fla dans son message pour attirer, puis être donc plus intéressant. Non, il n'a pas fait ça, il n'a pas imité le monde. Alors, Paul, la prédication n'était pas comme celle du monde. Puis, deuxième chose, son attitude n'était pas comme celle du monde aussi. Vous savez, dans le monde, malheureusement, même chrétiens, on voit souvent des querelles qui perdurent. Ça me fait toujours de la peine de voir, que ce soit dans notre église ou dans n'importe quelle église, des conflits qui dure pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ah, c'est comme réglé, tu sais, réglé en surface. Mais tu vois qu'il y a des dépôts encore. Moi, ça me fait de la peine parce que on devrait adresser ça vraiment, puis je comprends qu'il y a des blessures qui peuvent peut-être jamais revenir comme avant, puis il y a des choses extrêmement difficiles. Mais je pense qu'on devrait faire un pas de plus des fois pour régler des choses, pour justement être... On est des réconciliateurs, bien, démontrons-le. C'est pour ça qu'il encourage les chrétiens de Corinthe à se réconcilier avec un frère dans l'Église. On le voit au chapitre 2, 7-8, verset 7-8, il dit, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Pardonner et consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Un de nos anciens, moi, que j'aime beaucoup, il dit toujours, quand on gère ou on parle, il faut toujours avoir à quelqu'un, il faut toujours avoir dans l'idée de prendre soin. Je vais rencontrer la personne, mais il faut que je prenne soin de la personne. Il va falloir que je lui dise tel. Oui, mais fais-le en pensant qu'il faut que tu prennes soin de la personne. Puis ça m'aide à toujours me rappeler, justement, on est là pour la réconciliation, puis prendre soin les uns des autres. Puis c'est pour ça aussi qu'il recherche la réconciliation avec les chrétiens de Corinthe. Parce qu'il a écrit des choses dures. Puis des fois, nous, en tant qu'anciens dans l'Église, on va dire des choses peut-être dures, dans le sens des choses selon la parole, puis il y en a des fois qui peuvent, ça ne fait pas leur affaire, puis ils vont se fâcher. Mais lui, il veut réconcilier avec les chrétiens de Corinthe. Il veut vraiment, donnez-nous une place dans votre cœur. Il veut restaurer leur confiance. Il veut que leur confiance en lui revienne. Parce qu'il est un apôtre de Dieu, il a été appelé de Dieu. Puis pour Paul, c'est illogique d'être réconcilié avec Dieu et de rester en froid entre chrétiens. Illogique d'avoir reçu le ministère de la réconciliation, mais de rester en froid les uns avec les autres. Ça l'a pas. Puis les gens qui voient ça, ben ils peuvent bien dire, voyons, ils ne sont pas du monde, ce monde-là. Ils nous prêchent la paix, puis l'amour, puis la joie, puis ils chicanent entre eux. Notre rôle sur la terre, c'est d'être ça, réconciliateur. On veut prêcher l'Évangile, que les gens soient réconciliés avec Dieu. Bien, il faut que les gens le voient dans notre vie en premier. Vous savez, on n'a pas, notre rôle, c'est pas de fitter dans le monde. Des fois, c'est peut-être un peu ça. On essaie de fitter, on essaie de trouver une place confortable. Ou on essaie peut-être de dénoncer ou de réformer nos gouvernements. Puis avec la politique qui arrive, là, on a beaucoup d'opinions, puis on voudrait donc réformer. Mais notre rôle sur la terre, c'est d'amener les gens à Christ. C'est ça notre premier mandat. C'est pas de réformer le gouvernement. C'est pas de réformer les pratiques extérieures puis les façons de faire, c'est les cœurs. On doit réconcilier les gens avec Dieu, puis ça passe par une transformation dans le cœur. Puis il faut pas perdre de vue notre premier rôle. Le temps avance, je veux juste... Donc, vous voyez le portrait, hein? La culture, les gens, tout ce qui se passait, Paul arrive là... Il prêche l'Évangile, il n'essaie pas de faire du fla-fla, d'être comme les autres. Il prêche le vrai Évangile. Les gens se convertissent, ils arrivent. Ils traînent peut-être des choses de leur passé ou qui ont de la difficulté. Parce que c'est pas vrai qu'on devient chrétien et que tout notre passé, oui, effacé, pardonné, mais c'est pas vrai qu'on ne prêche plus puis qu'on est débarrassé de tout puis qu'il n'y a plus rien qui nous dérange jusqu'à temps que le Seigneur revienne. On sait qu'on est dans un combat. Donc, on amène ça avec nous, veut pas, dans notre vie partout, dans notre couple, dans notre famille, dans l'Église. Donc, Paul, il sait que ces chrétiens-là, ils ont un gros bagage en arrière à cause du contexte de cette ville-là, principalement, mais partout, là, on pourrait dire qu'on amène tout du bagage avec nous quand on se convertit. Et c'est dans ce contexte-là que Paul va écrire ces lettres-là. Et 2 Corinthiens, bien, on va l'étudier ensemble cette année, plus en détail. J'aimerais ça finir avec Jean 17. On va lire le verset 14 à 19. J'ai refait ma conclusion ce matin parce que vous savez, quand on enseigne à l'Assemblée, ben moi, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai enseigné ça. Puis ma conclusion était en lien avec il y a 2-3 ans, mais là, un matin, j'ai dit, on n'est plus là. Alors ce matin, j'ai refait un peu ma conclusion. Et c'est ce verset-là qui est venu dans mon cœur. Jean 17, 14, 19. Ce qui dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin ou de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et j'ai pensé à ce texte-là parce qu'on est dans le monde, mais clairement, Dieu, c'est sa volonté. Je veux pas que tu les enlèves du monde, mais je veux que tu les préserves du mal. Puis, on n'est pas toujours préservé du mal, sinon on pêcherait jamais, puis on serait, tu sais, on tombe des fois. Puis moi, je dis au Seigneur, préserve-moi, garde-moi du mal. Et cette semaine, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous l'avez vu, cette mauvaise nouvelle-là. Je ne sais pas si connaissez-vous Steve Lawson? C'est un... Non, en tout cas. Mais, tu sais, aux États-Unis, on a John Piper, John MacArthur, il y a plusieurs gros noms. Tu sais, gros noms, vous comprenez l'idée, tu sais, que leur prédication, elle se rend beaucoup partout. Mais Steve Lawson, c'est un de ces hommes-là, tu sais, c'est un prédicateur... excellent. C'est un de mes professeurs que j'ai eu l'année passée au séminaire, un prédicateur de l'enseignement pour la prédication. Et j'aime beaucoup, moi, Steve Lawson. Vraiment, vraiment, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et c'est ça, cette semaine, on a reçu un communiqué, ça a passé sur Internet, mais on a reçu un communiqué comme de quoi qu'il a été démis de ses fonctions. Ça ne détaille pas tout, mais il y a eu une conduite inappropriée avec une autre femme. Il est lui-même été voir les anciens pour se dénoncer, là, ben pour amener cette situation-là. Et mais moi, quand j'ai vu ça, les deux jambes m'ont scié. On s'attend pas de voir ça nécessairement de ceux qui dirigent, qui sont en poste de responsabilité. Puis moi, à chaque fois que j'entends ça, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Un autre prédicateur, Woody, que j'aime beaucoup, lui il s'est pas égaré, mais lui, il disait, je vais essayer de le dire par mémoire, il dit, l'homme le plus fort du monde est tombé dans le péché sexuel. Parlez de Samson. L'homme le plus sage du monde est tombé dans le péché sexuel. Parlez de Salomon. Puis l'homme, selon le cœur de Dieu, un des hommes qui est vraiment selon le cœur de Dieu est tombé dans le péché sexuel. Il parlait de David. Alors il dit, qui suis-je moi pour dire que je tomberai jamais si ces trois hommes-là ont tombé? Et la leçon, c'est veille, veiller. On est appelé à veiller. On est dans ce monde-là, mais on n'est pas comme le monde. Et il faut absolument veiller sur notre conduite. Puis pas juste notre conduite, sur notre cœur. Parce qu'on peut dire, ah, moi, j'ai une belle conduite, mais dans mon cœur, j'ai toutes sortes de choses que j'entretiens. En tout cas, moi, ça m'a bien gros ébranlé cette semaine. Parce que quand je vois ces hommes-là, je dis, bien... Pourquoi moi, je serais en sécurité plus que ces hommes-là? On aura toujours, vous savez, la tendance de vivre selon les désirs de notre chair. Ça va toujours venir nous cogner, puis nous attirer, puis nous... Tout le temps, toute notre vie. Même quand on est proche de Dieu, je veux dire, je conduis dans le char, puis j'ai un problème, un péché d'impatience au volant. Même si je suis proche de Dieu, bien, je vais avoir des occasions d'être impatient, puis de... Bien, il faut avoir la victoire, mais à un moment donné, je n'aurai pas la victoire 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. À un moment donné, on va l'échapper. Puis il faut absolument demander au Seigneur de nous garder. Il faut veiller sur tout ce qu'on fait pour ne pas se mettre devant la tentation. Parce que si on se met tout le temps devant la tentation, c'est sûr qu'on va tomber, puis on va tomber. Il faut fuir la tentation comme Joseph a fait avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas resté là. Il est parti. Pourquoi? Parce que s'il serait resté là, il aurait peut-être tombé lui aussi. 1 Corinthiens 10, 12, moi j'aime tellement ce verset-là. Ainsi donc que celui qui croit est debout, prenne garde de tomber. Hein, c'est pas quelqu'un que celui qui est debout, que celui qui croit est debout. Ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment debout dans le sens qu'on n'est pas, on n'a pas atteint la stature parfaite de Christ. On a encore la chair. Alors, si on pense qu'on y est arrivé et ça va donc bien, je vous garantis qu'il y a un tournant peut-être qui s'en vient. il faut premièrement pas se penser debout puis fort, puis il faut prendre garde de tomber. Alors, rappelons-nous constamment que même si on est dans le monde, on n'est pas du monde. On n'est pas de ce monde. Mais rappelons-nous aussi constamment que si nous sommes plus de ce monde, c'est uniquement à cause de la grâce de Dieu. Puis ça, cette semaine, encore une fois, ça m'a... Avec la nouvelle de Steve Lawson que j'ai eue, que j'ai prié pour lui, pour sa famille, j'ai dit, bon, on est personne à l'abri, il faut veiller, mais ça m'a rappelé la grâce de Dieu. Steve Lawson, il est pécheur comme moi. Si on est ici ce matin qu'on a pu prendre les emblèmes, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mieux. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens qu'on a lu tantôt, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, rappelons-nous de la grâce. Mais Seigneur, merci encore pour ta parole. Et Seigneur, on veut cette année regarder ensemble cette lettre, entre autres, avec d'autres choses que l'Église ici va faire, mais puisses-tu, Père, avec cette lettre, toucher nos cœurs, nous rappeler ces vérités, parce que je pense pas que j'ai appris des nouvelles choses à personne ce matin au niveau de la doctrine, des vérités bibliques. On les connaît, Seigneur, mais on a besoin qu'elles rentrent dans notre cœur, pénètrent notre cœur, qu'elles fassent une œuvre dans chacun de nos cœurs. Seigneur, garde-nous. Tu l'as dit, on est dans ce monde, comme Paul l'était, comme tellement d'autres avant nous, mais garde-nous. On sait que ta volonté, c'est de nous laisser ici, prêcher l'Évangile. Christ qui a pris nos péchés à la croix, puis que les gens peuvent avoir le pardon à cause de lui. Donc, tu nous laisses pour présenter ce message, mais comme tu dis, garde-les, préserve-les du mal. Puis c'est ma prière, puis en voyant, Seigneur, ce que... Il arrive à des hommes de Dieu, parce que Steve Lawson, c'est un homme de Dieu, c'est un homme, mais qu'on est tout failli, on peut tout faillir, Seigneur. Puis je veux te prier pour lui, sa femme, sa famille, que tu puisses, Père, rétablir avec cette repentance, rétablir cet homme. Père, tu as rétabli Pierre, tu as rétabli tant d'autres hommes avant lui. Puis on veut se rappeler, Père, que personne n'est à l'abri. Donc, on veut veiller, veiller, veiller. Aide-nous, Seigneur, à veiller, veiller, veiller. Puis, on veut se rappeler de ta grâce. Parce que on est tous pécheurs. Mais ta grâce fait qu'on est pardonné, qu'on est vu comme des saints, qu'on est vu comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné sa justice. Bénis l'Assemblée ici, leur témoignage. Puisses-tu amener des gens au pied de la croix et qu'ils puissent venir se joindre avec d'autres croyants ici pour t'adorer dimanche après dimanche. Au nom de Jésus compris. Amen.